vous salue. Chacun vraiment et chacune, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, je salue ceux qui sont là pour la première fois. Des amis aussi qui sont de passage. Ça touche beaucoup et il y a eu beaucoup de choses dans les prières, au milieu des fois de tribulations. Je me dis que ce qui se passe ici, c'est un miracle de Dieu. Que des hommes et des femmes de conditions si différentes, de parcours si différents, se retrouvent parce qu'un jour, comme l'a dit Jean-Luc, ils se sont arrêtés au pied de la croix. Et je crois qu'il y a un sens à ce culte ce matin. Notre sœur nous a lu tout à l'heure le psaume 32. Elle n'a pas fait référence, c'est le psaume 32. Je vous invite vraiment à lire ce psaume. J'ai failli prêcher dessus aujourd'hui. Je vais vous dire, quand j'ai des gros combats pour la prédication, il m'est arrivé quelques fois, deux ou trois fois, de finalement dire avec le psaume 32, je ne prends pas de risque, je vais méditer sur le psaume 32. Parce que c'est un psaume de béatitude qui déclare heureux, heureux celui à qui la transgression est remise, heureux celui à qui le péché est pardonné, tant que je me suis tu, mes os se desséchaient. Mon être entier se desséchait, je t'ai fait connaître mon péché. Et après, vous avez bien entendu cette liste de promesses. Je te guiderai, je te servirai de guide. Est-ce que vous avez besoin de ça les uns et les autres? Moi j'en ai besoin. Le Seigneur nous guide. Je vous invite vraiment à lire ce psaume. Et si je fais allusion à cela, c'est parce que nous allons ce matin méditer un autre passage, la parole qui est bien connue, et qui, quelque part, se situe un peu après dans la marche chrétienne. Jean-Luc nous a dit, la vie de chaque homme est appelée un jour à s'arrêter à la croix, puis à repartir de la croix, mais à y revenir aussi. Et ça, c'est le début. Il n'y a pas de début de cette relation avec Dieu sans s'arrêter au pied de la croix, vaincu, mais victorieux. Il n'y a pas d'autre chemin. Et Ésaïe 58, que nous allons méditer ce matin, est un autre moment dans la marche chrétienne où on est amené à s'arrêter de nouveau et à entendre Dieu qui nous reprend pour aller plus loin. Notre foi, déclare la parole, repose sur les écrits des apôtres, des 12 apôtres que Dieu a donnés, et sur les prophètes, c'est-à-dire sur le Nouveau Testament, sur les textes qui ont été écrits après précisément que Jésus-Christ soit mort à la croix et ressuscité et monté aux cieux en gloire et qu'il a répandu le Saint-Esprit, mais aussi sur la parole des prophètes de l'Ancien Testament, et sur la loi de Moïse, et sur les psaumes, ajoute la parole, c'est-à-dire sur toute l'Écriture. Toute l'Écriture nous a été donnée pour nous instruire, pour nous conduire à Christ. Et pour ce qui concerne l'Ancien Testament particulièrement, toute la partie de la loi, on va dire, mais tous les textes de Moïse, les cinq, le Pentateuque et aussi tous les autres livres de l'Ancien Testament, il est dit que ces livres sont comme des prescripteurs, des enseignants un peu, pour nous conduire à Christ, qui est le centre. C'est pour ça que ce matin, je lirai juste ce texte, mais il est déjà merveilleux, d'Ésaïe 58. Et puis j'en donnerai le contexte, mais je crois qu'on peut tout à fait être néo-testamentaire, être dans les temps de la fin, dans le temps de la grâce que nous avons proclamé, et nous nourrir de textes de l'Ancien Testament. Je vais commencer par introduire un peu mon propos. Quand on regarde, parcourt tout l'Ancien Testament, on en reparlera peut-être dimanche, puisque c'est Pâques, bon, on est libre vis-à-vis de ces fêtes, mais enfin, on dira quelque chose. Le peuple hébreu était sauvé parce qu'il a obéi à Dieu, il était esclave en Égypte, il a obéi à Dieu, et il a une obéissance toute simple. Un agneau a été immolé, le sang a été répandu sur les portes et sur les linteaux, et tous ceux qui étaient dans les maisons où il y avait ce sang répandu ont été sauvés. C'est-à-dire qu'ils sont restés en vie alors qu'un jugement de Dieu venait sur l'Égypte. Ensuite, ce peuple est sorti d'Égypte. Ensuite, il a conquis Canaan, d'abord avec Jéricho, et puis cette conquête a duré longtemps, plusieurs siècles, pour arriver à la conquête de Jérusalem et une paix complète sous Salomon. Je fais très vite, je viens de vous parcourir à peu près 1000 ans d'histoire du peuple de Dieu. Et cette paix à Jérusalem, c'est vraiment l'image de la maturité chrétienne. Ainsi, on voit souvent dans la vie, après l'expérience initiale du salut, on va dire, expérience par une expérience de foi, hein, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Ce n'est pas simplement une affaire d'émotion. Le Seigneur nous demande de croire à l'œuvre que Jésus-Christ a faite. Et donc souvent, on constate, après l'expérience initiale du salut et certaines premières expériences merveilleuses quand on rencontre le Seigneur, que des chrétiens se mettent à patiner, excusez-moi l'expression, et à tourner en rond, voire deviennent rapidement inenseignables. On a fait des expériences, on a été sauvés réellement, on est converti, on est nouveau. Et puis, d'un seul coup, on dit, mais je sais tout, et on ne veut plus rien entendre. Et ça, c'est quelque chose de douloureux. Certains quittent leur communauté pour aller vers d'autres, se rendant pas compte, parfois c'est guidé par Dieu, parfois, il faut le dire, c'est quand même une révolte qui est venue là, et c'est dommageable, parce que ces personnes partent avec des problèmes. Et on peut changer, on peut faire le tour. Vous savez, c'est comme de partir au soleil, ça ne résout pas les problèmes. Ça met les problèmes au soleil. Bon, on a un peu plus chaud, mais les problèmes demeurent. D'autres restent fidèles, des fois liés par ce verset, « Ne quittez pas votre assemblée hein ». Certains conducteurs en ont parfois abusé. Alors, les brebis restent un peu atterrées. Et puis, elles ont quand même un mal-être, alors elles tentent, par des efforts ou des œuvres, de mériter quelque chose de Dieu. Sachant suffisamment de la vérité pour savoir que du côté de Dieu, il n'y a jamais de problème, je me plais à le répéter ici, et je le redis ce matin, gagnez du temps quand vous lisez la Bible ou quand vous avez des problèmes dans votre vie, du côté de Dieu, il n'y a pas de problème. Il est bon, il est saint, il est parfait, il est miséricordieux, il est le même, il ne change pas, il n'a pas une humeur qui change, non. Donc, ne perdons pas de temps de ce côté-là, c'est de notre côté. Et c'est bien là la difficulté, c'est qu'on a du mal à le reconnaître. Donc, certains chrétiens, effectivement, sachant suffisamment de la vérité pour savoir que du côté de Dieu, il n'y a jamais de problème, mais ils ne savent pas comment sortir des leurs. Alors, on voit des comportements religieux se mettre en place. Un comportement religieux, c'est un comportement qui est propre sur lui. Tout est en règle. On vient bien au culte. Si on ne vient pas au culte, on met un texto au pasteur pour dire « je ne viens pas ». C'est pas mal en soi. Bon, mais je sais qu'il y a certaines dénominations où le pasteur, il sert à rien. Il se met à la fin pour bien. Bon, je ne m'en veuillez pas. Je manque parfois à ce rôle. Nous prions ce matin avec Mariani, qui on disait « Seigneur, tu vois, quand il y a un culte, on a l'impression de voir tout le monde et de voir personne. Seigneur, guide-nous que si on a à voir deux personnes, eh bien on les voit et que les autres ne soient pas fâchés de ça. » Vous voyez, c'est pas toujours très facile. Hein. Alors, il y a le comportement religieux qui peut venir, un pharisaïsme, d'autres la critique ou l'abattement, parce qu'on est mal, mais on a du mal à reconnaître ce qu'il y a dans nos vies, alors on va critiquer autour, ou alors abattement, résignation, dépression parfois, tout ça cache mal une révolte qui se développe au fond du cœur. Et donc nous allons lire maintenant Ésaïe 58, parce que je crois qu'il y a dans ce texte de belles réponses à ces situations. Et si certains ne se reconnaissent pas du tout parce que ça leur est jamais arrivé ou que ça leur est pas encore arrivé, oh, écoutez quand même, parce que peut-être... Ma prédication sera insuffisante, mais le texte de la parole de Dieu, il est magnifique. Nous prenons dans Ésaïe au chapitre 58. « Crie à plein gosier, Ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme il veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme? Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source d'eau, une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Amen. On pourrait s'arrêter là. Quel beau texte. Alors, je voudrais avec vous d'abord un petit rappel sur la structure de ce texte et son contexte. Donc le peuple qui a reçu les promesses et le peuple de qui naîtra le Seigneur Jésus-Christ, selon la chair, qui a vu toutes les étapes que j'ai énoncées tout à l'heure, salut par le sang de l'agneau, sortie d'Égypte, conquête de Canaan, conquête de Jérusalem, paix à Jérusalem, c'est un moment détourné. Ce peuple qui a vu la main puissante, mais aussi le Dieu unique, tout-puissant, vivant, miséricordieux, compatissant, il s'est détourné, frères et sœurs. Ce peuple-là qui a connu s'est détourné. S'est détourné. Là, on ne dit pas Amen, et pourtant, ça arrive aussi dans nos vies. Il s'est détourné vers un tas d'idoles. La défaite est là, car c'était un autre thème que j'aurais voulu aborder avec vous, c'est la séparation et la mise à part. C'est quelque chose qui est permanent dans la Bible. Dieu y met à part. Et on n'aime pas ça. Souvent, on aime retourner à nos vieilles lunes, excusez-moi l'expression. on aime retourner l'Égypte. Oh, que l'on aime ce monde. Or, Dieu, il sépare, il tranche, il met à part. Mais derrière ces mots, il y a aussi « il choisit ». Est-ce qu'un fiancé ou une fiancée trouve anormal que son fiancé ou sa fiancée, son époux ou son épouse, soit une personne mise à part, choisie? Est-ce qu'on supporterait, est-ce qu'on supporte qu'un conjoint, une conjointe, une fiancée, un fiancé nous trompe? Dieu est un Dieu jaloux. Alors il met à part. Ce n'est pas pour nous punir. Il met à part, il prend, il nous coupe de notre passé pour nous emmener ailleurs. Il nous transporte dans le royaume. Retenons ça. Oui, partout dans la Bible, on parle d'un petit reste, d'un mis à part, de séparation. C'est dans ce sens-là, une séparation intérieure, certes, parfois qui doit être aussi manifestée vis-à-vis de choses qui ne sont pas bonnes. Donc ce peuple qui a vu tout cela s'est détourné. La défaite est là, et malgré les avertissements des prophètes, le peuple va s'enfoncer, va persévérer dans sa révolte et sa rébellion jusqu'à ce que le châtiment annoncé par Dieu, châtiment qui est toujours afin de ramener le peuple vers lui, s'exécute. Ce sera la déportation à Babylone et de grands fléaux pour ceux qui auront pensé que ce châtiment n'était encore pas pour eux et qui auront persévéré encore, ils connaîtront des fléaux plus grands encore. Ce peuple est devenu religieux. Oui, il jeûne, mais dans quel esprit? Ce peuple m'honore, mais son cœur est éloigné de moi. Et voilà le contexte de cette intervention de Dieu à travers la bouche de son prophète. C'est le sens de ces versets 1 à 5 sur lesquels je passe maintenant rapidement. Puis l'Éternel va parler à son peuple pour le relever. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Trois étapes sont données pour rendre un culte qui soit agréable à notre Dieu. Première étape, nettoie ton cœur, préalable à tout, ma relation avec Dieu. Nous le chantons, nous avons raison de le chanter, ma relation avec Dieu. J'en suis où dans ma relation avec Dieu? Le psalmiste va dire, sonde mon cœur et connais mes voies. Et nous l'avons chanté. Et si je m'égare, ramène-moi sur les voies de l'éternité. Sur les voies de l'éternité. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ramène-moi sur les voies de l'éternité. Et là, il y a quatre choses qui sont données dans un premier temps. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, que l'on rompe toute espèce de joug, ce sera le cœur de ce que je vais traiter. Alors, une fois que cela est fait, alors oui, tes actions, tes œuvres que tu accompliras seront agréées par Dieu. Ça, c'est la dimension de ma relation avec les autres. Ma relation avec Dieu, nettoie mon cœur. Ma relation avec les autres, mes œuvres, mes actions, partage ton pain. Fais entrer dans ta maison les malheureux, et si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton prochain. Donne de ta propre subsistance. C'est-à-dire partage avec celui qui a faim. Les proverbes vont nous dire partage avec celui qui ne pourra pas te rendre. Rassasie l'âme indigente. Rassasie l'âme indigente. L'âme indigente... Tony, à la réunion de prière le mardi soir, nous parlait de ce paralytique qui était porté. L'âme indigente, c'est ça. C'est celle qui ne peut même plus dire « j'ai faim ». Rassasie, toi qui connais, rassasie l'âme indigente. Après avoir nettoyé ton cœur, sinon tu bosses pour rien. Alors, si le cœur est nettoyé, si ces actions étaient faites avec un cœur nettoyé, clair devant Dieu, pas par notre justice, par l'action de la croix, alors tu feras du sabbat tes délices. À lui la gloire et non pas à moi. Un culte, tu pourras enfin lui rendre un culte qui lui soit agréable. Dans quel état sommes-nous venus ce matin pour rendre le culte à Dieu? Où en sont nos cœurs? Frères et sœurs, je vais développer ça parce que je crois que c'est important qu'on puisse venir avec un cœur dans lequel les chaînes de la méchanceté ont été détachées, les liens de la servitude dénoués, qu'on puisse renvoyer libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Détache, aidez-nous. Détache les chaînes de la méchanceté. Ces chaînes de la méchanceté, elles prennent naissance dans le cœur. Nous savons, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Ça nous plaît pas. Mais c'est ainsi, j'entends le cœur qui n'a pas été circoncis par la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que nous vivons encore dans ce cœur de chair. C'est une des dimensions de la croix, de venir circoncire cette chair, de la faire se taire, cette chair. Nous ne la supprimerons pas, mais on a les moyens de la faire taire. On a les moyens de la faire taire par la puissance de l'esprit de vie. Comment viennent s'installer des chaînes de la méchanceté? À l'occasion d'une injustice ou d'une offense, d'un manque de considération, un sentiment d'injustice selon nous, et sans doute un sentiment d'injustice, nous avons tous dans nos vies, souvent dès la plus petite enfance, ressenti ce sentiment d'injustice. Pour certains, c'est flagrant s'il y a violence vis-à-vis d'un enfant, nécessairement, c'est des traces profondes qui sont là. Mais aussi, si quelqu'un a des talents et qu'une parole d'autorité a été mise sur cette vie en disant « tu réussiras rien » parce que cette personne, un père ou une mère, elle-même frustrée par ses pères, ne peut pas reconnaître le talent, ça le blesse trop. Alors une parole méchante va sortir. Et c'est ainsi qu'on fait naître des chaînes de la méchanceté. Je ne suis pas en train de dire que c'est rien. Je dis que c'est grave, mais je dis que le Seigneur nous dit, détache-les ces chaînes-là. Détache-les. Il l'a fait à la croix. Détache-les. Détache ces chaînes-là. Elles mènent à la mort. Il est certain que si on n'a pas rencontré le Seigneur jeune, ces chaînes se sont multipliées, les maillons de la chaîne se sont multipliés. On laisse naître et puis s'installer une pensée. « Je me vengerai. » Peut-être on ne le formule pas comme ça, mais c'est ça qu'il y a dans le cœur. « je me vengerai de plein de manières. » Si on laisse s'installer cela, la machine s'emballe très vite. C'est le syndrome de Caïn. Le péché couche à ta porte, mais si tu lui résistes, il ne dominera pas sur toi. Mais tant qu'on ne connaît pas le Seigneur, on ne sait pas lui résister. Et on devient esclave de ce qui a dominé sur nous. Et des vies sont entraînées dans des chemins pas possibles. Tous n'iront pas en prison pour meurtre, mais les dégâts intérieurs sont là. Ces choses-là peuvent naître avec une profession désirée. Comme je disais, il y a une frustration, ça ne s'est pas passé comme on voulait. Une parole d'autorité est venue briser le rêve. Alors, ce que j'appelle des moteurs puissants se mettent en route, qui reviennent à dire « je me vengerai ». Je me vengerai par une réussite sociale. Je me vengerai par la violence. Je me vengerai par une passion. Je démontrerai que je suis le plus fort. Et il verra de quel bois je me chauffe. Je le forcerai à m'admirer. Un père ou une mère. Et ça ne marchera pas. Parce que dans ce processus-là, c'est l'orgueil qui sert de collier. Et c'est un moteur puissant. Et en même temps, la pensée de l'éternité, elle est toujours dans le cœur de l'homme, même dans le cœur de l'homme qui est entraîné ainsi par la méchanceté. La pensée de l'éternité est toujours là. Et ça peut nous conduire dans des voies philosophiques ou religieuses, avec des efforts, et ça forge autre chose. Pour essayer de compenser parce que cette méchanceté nous enferme, il y a la honte qui s'installe et on ne sait pas comment en sortir. Alors on arrange ça par la religion, on arrange ça par le relativisme, on arrange ça par des efforts et ça ne donne rien si ce n'est que la fermentation va plus loin. La servitude, un autre aspect d'une mauvaise réaction liée à la chute, servitude et domination méchante sont la déformation du rapport que notre Dieu créateur a désiré pour sa création. Oui, Dieu est un Dieu d'autorité. Sa parole a une autorité. Elle a fondé le monde. Elle a séparé la lumière des ténèbres. Elle a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Elle a séparé les eaux et la terre. Une parole qui tranche. C'est elle qui sépare ce qui est de l'âme, ce qui est de l'esprit, jusqu'à jointure. Elle travaille en profondeur. Oui, c'est un Dieu d'autorité parce que c'est un Père. Et un Père, il a une autorité. Et c'est un rapport, nous l'avons dit, nous l'avons reproclamé, mais la bannière de cette autorité, c'est l'amour. C'est l'amour. Mais Satan, dans sa parole, Dieu a-t-il vraiment dit, et quand il a suggéré qu'il voulait dominer sur nous, il a amené, lui, un autre rapport, celui de la domination méchante et de la servitude. Dieu, lui, l'a voulu, oui, une obéissance de sa création, un cœur soumis, qui lui obéisse. Il a mis un peuple à part. Qui lui obéisse. Mais d'un cœur soumis parce que connaissant les motivations de celui qui est son autorité, et l'autorité du Père d'amour, c'est l'amour. Dieu, oui, a donné un cadre pour la vie, tous les arbres du jardin pour ses enfants, pour nous. Satan a installé le doute et conduit à la désobéissance avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, déterminé par moi-même ce qui est bien, ce qui est mal, et voilà ce qui nous a conduit à la servitude. La chaîne domination-servitude entraîne la révolte, puis la vengeance à son tour. Puis plus de servitude, parce que cette autorité-là alors s'exerce par la force, et elle soumet, et elle contraint. Ce qui n'empêche pas, dans celui qui est asservi, la révolte de gronder. Et le jour où il y aura une brèche, ce sera l'explosion. Nous voyons ça tous les jours au milieu de notre peuple. C'est un peuple rebelle, un peuple révolté, en partie parce qu'il a connu des siècles d'un joug religieux puissant, parce que déformé. J'ai eu l'occasion de partager, peut-être certains l'ont entendu, ce que j'appelle ma parabole du pommier et du lierre. Plusieurs ont vu. Un lierre s'était mis à monter autour d'un pommier. Sans doute assez jeune, le pommier. Ce lierre a à moitié étouffé ce pommier, il l'a affaibli. Alors, cet arbre, faiblissant, s'est incliné. Parce qu'il a perdu des forces, il n'était plus aligné. Et le lierre a prospéré. À tel point qu'à un moment, l'arbre était comme ça, et le lierre était là, collé à l'arbre. C'est-à-dire que, et quand j'ai coupé le lierre, l'arbre s'est encore incliné. C'est-à-dire que celui qui a asservi le lierre, au moment de la délivrance, on s'aperçoit qu'il avait fini par faire croire à l'arbre qu'il aidait l'arbre à tenir debout. Voilà le mensonge de l'ennemi. On peut être pris dans des servitudes, des liens, et on finit par croire que c'est ça qui nous aide à vivre. C'est le mensonge de l'ennemi. Et on craint de quitter cette servitude, parce qu'on dit, mais comment je vais tenir debout ? On craint de quitter cette servitude. Voilà le travail de l'ennemi. Voilà ce qu'on peut mettre en route, des servitudes dans la relation avec nos enfants. Le père ou la mère avec son fils ou ses filles. Enfin, ce n'est pas tout à fait les mêmes servitudes. Souvent, le père, ça va être des projections sur ses enfants. Et comme l'enfant ne sera pas capable de satisfaire son père, les enfants discernent ces choses-là. Il y aura déception. Ces choses-là se vivent intérieurement. Une mère avec ses enfants, ça va être autre chose, croyant. Qu'est-ce que je fais si je les ai pus ? Nous avons dans la Bible un couple qui a vécu cela, de manière très, très, très concrète. C'est Isaac et Rebecca, vis-à-vis de Jacob et Ésaü. Pour faire simple, ils avaient chacun le leur. Voilà ce que ça donne. Et ça amène dans le couple des choses bizarres. Quand Ésaü va chercher la bénédiction, c'était le fils aîné, la mère voyant ça, dit à Jacob, fais ceci, fais cela. Dans le dos de son mari, si j'ose dire. C'est pas joli, c'est salade. Mais il y a une solution. Alors, on est invité à détacher ces chaînes de la méchanceté, à dénouer ces liens de la servitude. Et cela se fera au fur et à mesure de la marche chrétienne. Ce que je fais ce matin, c'est que je cite des exemples, je suis sûr que ça parle à plusieurs. Parce que ça a parlé dans ma vie. On l'a rappelé, vous savez, on est la grâce qu'on a, c'est de savoir qu'il y a une solution. C'est ça la grâce, c'est qu'on sait qu'il y a une solution. Peut-être on ne l'a pas encore saisie complètement. Mais on sait qu'elle est là. On n'a plus à la chercher ailleurs. Au fur et à mesure de la marche chrétienne, le Seigneur nous montre ce qui est dans notre cœur. J'aime beaucoup ce passage de Deutéronome 8. Souviens-toi de cette marche au désert. Que Dieu a voulu, je le rappelle. Ce n'est pas un accident. Il a voulu pour qu'on voit ce qu'il y avait dans notre cœur. C'est un temps nécessaire. Accepter de reconnaître. Dieu nous accompagne, c'est un grand pédagogue. À travers ce que je vous ai dit, vous allez dire, oh là là, quel tableau. Frères et sœurs, c'est la réalité. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour rien, pour deux bricoles. Il n'est pas mort pour deux carambars volés. Il est mort pour des vies naufragées, des vies détruites. C'est pour ça qu'il est mort. Sinon, ce n'est pas la peine. Dieu est un pédagogue. Au début, il sait dans quel état nous sommes. Il ne nous montre pas tout d'un coup. Ça, c'est le passage au désert. Il assure la nourriture et le vêtement et les chaussures. Ça, c'est le début de la marche chrétienne. Quand on se retourne dans un temps, on se dit, mais Seigneur, mais cette période, je me dis, waouh, comment t'as fait ça, quoi ? Et puis à un moment, il dit, bon, mon fils, ma fille, on grandit un peu ? Allez, on attaque Canaan. On attaque Canaan. Vous noterez que à l'entrée en Canaan, il n'y a pas eu la manne. C'était fini la manne. À l'entrée en Canaan, le peuple a vécu de ce qu'il a cultivé. La manne, terminée. Alors certains, ça leur plaisait peut-être parce que dans le désert, ils trouvaient que la manne, c'était un peu... C'était pas très varié comme nourriture. Mais la manne n'a jamais manqué. La nuée dans la nuée de jour, la lumière dans la nuit, les chaussures ne sont pas usées, les vêtements non plus, pas d'allocation familiale, pas de RSA, rien du tout. Dieu qui conduit. Il n'a pas dit qu'il y avait les Nike et les Reebok et je ne sais quoi. il a dit qu'on aurait des chaussures, des vêtements et qu'il pourvoirait à tous nos besoins. Amen. Amen. Et donc après, nous entrons dans les combats pour saisir, pour la conquête. Nous entrons, parce que Dieu a des promesses, le salut est offert. C'est par grâce, on l'a chanté. J'aurais une strophe à ajouter. Il est offert. Encore faut-il accepter le cadeau. Pétard de pétard, combien ont du mal à recevoir. Est-ce qu'on peut tendre les mains pour recevoir ce que Dieu veut nous donner? La grâce, elle est offerte. Il y a 2000 ans à la croix, la grâce, elle est offerte. Elle coule, le trône coule. Ce qui se passe aujourd'hui, il se passe une chose. Pour un homme, pour une femme, peut-être pour l'un d'entre vous aujourd'hui, pour plusieurs, j'espère. Simplement aujourd'hui, vous allez avoir compris. Et vous allez dire, Seigneur, j'accepte. Mais Jésus-Christ n'a rien accompli de plus aujourd'hui. Il a tout accompli à la croix. C'est disponible. La grâce, elle est disponible. Tout ce que j'ai évoqué là, Jésus vous dit, c'est la solution. C'est la solution. Donne-moi tout. Donne-moi toutes tes horreurs là, dont j'ai parlé. Donne-moi tout ça, tout ce qui tourmente ton âme. Peut-être vous êtes converti, mais peut-être ce matin encore, dis ça, lâche-le-moi. Ta déception vis-à-vis de ton fils, ta fille, lâche-le-moi. Et toi, fils ou fille, ta haine et ta vengeance vis-à-vis de ton père, lâche-la ce matin. Lâche-la ce matin. Lâche-la ce matin. Tu ne pourras pas aller plus loin si tu ne lâches pas. Lâche-la. Lâche-la ce matin. Alors nous entrerons dans les combats pour saisir Canaan. Le Seigneur nous livrera les méchancetés qui ont occupé notre cœur, c'est-à-dire qu'il nous les montrera et nous aurons une décision à prendre, dévouée par interdit, c'est-à-dire cela, je n'en veux plus, cela, je n'en veux plus. Mais c'est au-dessus de mes forces. Mais Seigneur, je n'en veux plus. Et il agira. Et il agira. La jalousie par rapport à un frère ou une sœur, dans le naturel ou en Christ, parce que ça existe dans le corps de Christ, ça existait chez les Corinthiens, qui étaient remplis, qui avaient tous les dons, qui étaient comblés, et ça existait. Je n'en veux plus, Seigneur, viens ôter les séquences de programmes que Satan a installées dans ma mémoire et mon cerveau, et installe la parole de vie. Détache et dénoue, renvoie libre. Peut-être tu te dis ce matin, c'est bien joli tout ça, mais ça m'écrase. Alors souviens-toi, lorsque tu as rencontré ton Sauveur, qu'il t'a attiré au pied de la croix, comme nous a rappelé Jean-Luc, et que là, convaincu de péché, tu as lâché, et tu as connu cette paix que tu n'avais jamais connue. Souviens-toi. Souviens-toi. Tu te rappelles de ça? Si ça ne s'est pas passé, ça peut se passer ce matin. Et si ça s'est passé, souviens-toi. Dieu n'a pas changé. Il est le même. Il ne veut pas te laisser tourner en rond et mourir dans le désert. Dieu est ton Dieu. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Deutéronome 32, verset 9, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie les ailes et les prend, les porte sur ses plumes. Voilà le Dieu d'éternité, celui qui seul est capable de résoudre tout ce qu'on a évoqué avant. C'est ça, c'est lui. c'est lui, le Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ. L'autre jour, avec Marie-Annick, nous lisons, en ce moment, nous lisons la lettre aux Corinthiens. Une merveilleuse introduction dans les 9 premiers versets. 9 fois, Jésus-Christ, le Seigneur, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ est le Père de grâce. Le Seigneur Jésus-Christ, le seul qui peut résoudre cela ce matin dans nos cœurs. Deutéronome 7, verset 7, « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples. » Oui, nous avons la victoire, on l'a chanté ce matin, mais je le précise, notre victoire, elle triomphe du monde, pas par les armes, pas par des cohortes, pas par des manifestations, elle triomphe du monde dans notre cœur, par notre foi basée sur les Écritures. Christ est vainqueur. L'amour a tout vaincu. L'amour de Christ, l'amour qui se donne, il a tout vaincu. Voilà notre confession, voilà notre victoire, c'est notre foi, frères et sœurs, c'est cela. Tenons ferme, pas par la chair, pas par des manifestations, pas par des banderoles, sauf une, sa bannière, c'est l'amour. Sauf une, sa bannière, c'est l'amour. Je voudrais vous donner soif, envie ce matin, et je sais que c'est ça que le Seigneur demande. De méditer sa parole, de la recevoir dans nos cœurs. Et simplement, ce que je fais ce matin, c'est qu'au moment où vous allez ouvrir votre Bible chez vous, vous sachiez que c'est le Père des miséricordes qui a un regard bienveillant sur vous et qui veut ce filtre d'amour pour comprendre sa parole. Je brise toutes les choses. Quand vous lisez la parole, s'il y a des choses qui viennent condamner, des choses peuvent reprendre, mais pas condamner. Quand on lit la parole de Dieu, le Père d'amour nous révèle dans nos cœurs. Il nous révèle des fois des choses difficiles, mais pour les résoudre, pour les dénouer, pour envoyer libre, libre, libre. Et si ça vous oppresse, et je sais de quoi je parle, si ça vous oppresse, c'est pas le Père d'amour, c'est l'autre. C'est l'autre. C'est l'autre. Mais l'autre, il a été vaincu à la croix de Golgotha. Il est vaincu judiciairement, l'affaire est réglée. Par contre, c'est au sein du peuple de Dieu qu'on peut saisir cette victoire. Parce qu'il y a des frères et sœurs qui ont connu, qui ont saisi cette victoire. Alors on peut se retrouver. On peut venir. Ce que je voudrais faire ce matin, c'est que chacun puisse dire davantage qu'il ne le fait aujourd'hui. Se confier non pas à des frères et sœurs qui sont limités, mais se confier dans le Christ qui vit, dans des frères et sœurs qui ont connu et qui ont connu la victoire. Parce qu'on peut connaître la victoire. Je rappelle, j'aime bien cette image-là, je ne l'ai pas lu dans les livres, c'est le Seigneur, je crois, qui me l'a donnée. Pour certains, c'est loin. Mais vous savez que notre pays, en 1945, je n'étais pas né, mais je n'ai pas oublié. Je sais, je me suis intéressé à cette chose. Notre pays, en 1944, le 6 juin 1944, vous savez ce qui s'est passé, il y a eu le débarquement dit des Alliés pour libérer notre pays. Il y a eu le débarquement des Alliés. Ça a commencé là-bas en Normandie. Au passage, la Normandie est un lieu de réveil. Tiens, ça me vient ce matin. La Normandie est un lieu de réveil. C'est venu par la Normandie. Ils ont débarqué en Normandie. Les hommes des phares se sont fait... Les hommes se sont fait fusiller sur les plages comme des lapins. Il y a eu la pointe du Hoc, je ne sais pas si vous avez visité ce lieu. Lieu escarpé, il y avait des canons, il a fallu déloger. Les gars, ils sont montés avec des cordes. Il y a un prix qui a été payé pour la délivrance. Et la délivrance, elle a commencé en Normandie, le 6 juin 44. Il y a eu des combats jusqu'en août 45. Mais Berlin a été libéré en août 45. Dans nos vies, c'est pareil, frères et sœurs. Il y a un moment, Jésus a débarqué. Il a pris place. Je voudrais vous dire une chose. Il ne quittera pas, il libérera tout. Il libérera tout. Il libérera tout. Pour ceux qui reconnaissent les places fortes de l'ennemi. Il a la puissance de délivrer. Pour ceux qui reconnaissent les places fortes de l'ennemi, que l'ennemi a installées. Mais Jésus-Christ a débarqué. Jésus-Christ a débarqué dans les vies et il veut encore débarquer dans les vies. Il veut encore débarquer dans les vies. Et là où il est débarqué, il veut prendre toute la place. Toute la place. Toute la place. Deutéronome 7, verset 7, « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. » Frères et sœurs, l'Église aujourd'hui, elle est bafouée, elle est moquée. L'Église de Jésus-Christ, celle qui lui appartient. Il y a peut-être toute une Église institutionnelle qui cherche de la reconnaissance, mais l'Église de Jésus-Christ vient un temps. Elle n'est pas aimée. Je ne veux pas susciter du sentiment de rejet dans nos cœurs, mais c'est un fait. Il y a opposition entre la vie de l'esprit et la vie de la chair, entre l'esprit de ce monde et l'esprit du royaume. C'est délicat, non, pour moi, ce n'est pas délicat de parler de ça. C'est un fait. Ce n'est pas, je ne suis pas en train de tenir un discours de retranché. Nous sommes ambassade du royaume, mais ce n'est pas un métier facile. Ce n'est pas un métier facile. Et ça ne va pas être un métier facile. Vous êtes le moindre de tous les peuples. Et ça fait comme écho à cette parole de Jésus. Ne crains pas, petit troupeau. Il a plu au Père de te donner le royaume. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Alors ce matin, je voudrais t'inviter à renoncer à la méchanceté qui t'a ficelé. Ne crains pas, peut-être tu te dis, mais comment je vais faire sans cela? Ça a été ton armure pendant de si longues années. Mais ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Dieu veut t'apprendre à aimer. Dieu veut t'apprendre à être aimé. Et dans cet Ésaïe 58, je voudrais simplement vous lire les promesses qui sont attachées à la libération de tout ce que nous avons dit avant. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Ta guérison, oui, toute ta guérison, elle germera promptement. Ta justice marchera devant toi. La gloire de l'Éternel t'accompagnera dans ta vie. Et tu appelleras et il répondra. Et ce n'est pas tout, le texte ajoute. Si tu dénoues, détache les liens de la méchanceté, si tu dénoues les liens de la servitude, si le cœur nettoyé, tu pratiques l'hospitalité, tu ne te détournes pas de ton prochain. Il y aura tout ce que je viens te dire là, mais il y aura plus. Les tiens, tes enfants, ceux que tu as libérés dans ton cœur devant Dieu, de la déception qu'ils t'ont causée ou de la jalousie qu'ils ont suscitée dans ton cœur, oui, ceux-là rebâtiront une relation sur ces ruines anciennes. Père, mère, entendez ces paroles. Plus que cela encore, toi qui étais dans la méchanceté et qui as accepté que le Seigneur t'en délivre, tu sais comment on t'appellera ? Réparateur de brèches. Parce que tu auras compris, parce que tu auras vécu dans ton cœur la guérison et la restauration, Dieu t'utilisera. Dieu ne teste pas les QI et puis les diplômes. Il dit, celui-là, est-ce qu'il m'appartient? Est-ce que celui-là, j'ai pu travailler en lui? Est-ce que j'ai pu faire ce que je voulais dans sa vie? Est-ce que je l'ai restauré? Est-ce qu'il m'a laissé le restaurer pour qu'il puisse aider d'autres? Pour que je puisse l'utiliser pour d'autres? qu'on ne peut rien faire. Oui, toi, qui par cet enfermement a causé tant de souffrances dont tu as eu conscience. Eh bien, ce matin, le Seigneur te dit, je n'en ai pas fini avec toi. Non seulement tu vas détacher les chaînes dans lesquelles tu t'es toi-même pris les pieds, mais par cette même guérison de ton cœur, tu deviendras un réparateur de brèches. Je vous propose simplement qu'on prie. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, notre vie s'est arrêtée un jour au pied de la croix et nous avons contemplé, nous avons su, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour cela, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous as lavés et purifiés de tout péché, mais Seigneur, tu as fait plus que cela. Tu nous as pris avec toi dans ta mort. À Gethsémané déjà, Seigneur, dans cette obéissance de cœur et parfaite, entièrement soumise à ton Père, connaissant parfaitement la mission qui t'était confiée, Seigneur, tu as dit oui. Tu as dit oui pour la vie de chacun de nous, pour que, Seigneur, nous soyons délivrés. Ces autorités méchantes qui agissent dans les lieux célestes, mais qui agissent dans les vies aussi, Seigneur, qui ont ficelé, emprisonné tant de vies, Seigneur. Tu les as vaincues. Elles ont été exposées à la croix. Les actes qui nous condamnaient, dont les ordonnances, dont les accusations persistaient contre chacun de mes frères et sœurs, chacune des personnes qui sont là, et moi-même. Elles ont été crucifiées à la croix. Nous te demandons ce matin, Seigneur. Je te demande vraiment, Seigneur, avec humilité, mais confiance, Seigneur. Reçois ces mots, reçois cette prière pour ton peuple, Seigneur, et pour ceux qui te cherchent. Que, Seigneur, soit installé ce matin dans les cœurs cette assurance que tout ce que tu as accompli, c'est par amour pour nous. Que les chaînes tombent ce matin, que les chaînes tombent, que plusieurs, Seigneur, ce matin puissent repartir, saisissent la victoire, Seigneur. Ose aller plus loin, ose en parler, ose demander, Seigneur, la prière d'autres rachetés de l'Éternel que tu as restauré, Seigneur. Je te loue, je te bénis, mon Dieu. Excellent Père de grâce, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Père de notre Sauveur Jésus-Christ, Père de Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu en chair, qui a fait le bien partout où il passait et qui s'est donné lui-même pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Sois béni, sois loué, Père. Amen.